m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bienvenue sur Radio Courtoisie. Nous sommes ce soir avec deux éminents représentants de la classe intellectuelle. D'abord Jean-Henri Soutou, l'historien bien connu, et en temps deuxième heure, Max Erwan Gatineau. Et tous les deux vont nous permettre d'explorer quelle peut être la place de la France dans le monde en ce moment, c'est-à-dire tel que Emmanuel Macron l'a façonné, tel qu'il l'a déformé peut-être, tel qu'il l'a aplati, tel qu'il va la rendre dans deux ans, dans un monde qui lui-même aura profondément changé depuis son discours de la Sorbonne en 2017. Bonjour Jean-Henri Soutou.
Bonjour.
Voilà, donc je l'ai rappelé, vous êtes historien, vous êtes aussi membre de l'Institut. Voilà, vous livrez des ouvrages sur l'histoire des relations internationales depuis plusieurs années, et même plusieurs dizaines d'années. Et ça, ce sont des ouvrages qui ont marqué. Et vous avez la chance de vous installer à chaque fois dans le temps long, qui n'est pas exactement celui du commentaire politique, ni même peut-être de l'action politique dans nos régimes, avec des gens aussi pressés que Donald Trump ou aussi empressés que Emmanuel Macron. Et je voudrais vous poser une première question sur justement la manière dont un historien aujourd'hui est capable de prendre ou non de la distance avec cette guerre en Ukraine où on réinvente la guerre des tranchées alors qu'on croyait qu'au contraire 14-18 avait enterré la chose. Je me souviens d'un article où vous disiez ce que nous apprend la guerre en Ukraine, c'est que brusquement les chemins de fer sont redevenus une variable stratégique, ce qu'on avait un peu oublié. Et même chose là, peut-être que le détroit d'Ormuz va redevenir un point de passage extrêmement important. Alors on savait qu'il était important, mais c'était pas forcément un objectif guerrier. Israël est en train de s'allier avec l'Éthiopie pour essayer de faire en sorte d'avoir une espèce d'emprise territoriale qui permettrait justement de sécuriser cette région-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de revivre des choses anciennes ou au contraire, l'historien aujourd'hui se dit que les repères ont changé ?
Non, il ne faut jamais penser que le passé se reproduit exactement de la même façon. Simplement, si on l'étudie, on y réfléchit, si on l'étudie bien, c'est pas si simple que ça, on peut y trouver des leçons, des exemples, des points de comparaison et d'autre part quand même des facteurs qui ne changent pas. Les facteurs de temps long, vous en avez qui sont connus dont tout le monde parle, ce sont les facteurs économiques du genre source de matières premières, géographie, vous avez évoqué les chemins de fer, transport en général. Bon, il y a des facteurs encore plus longs, c'est tout ce qui est culturel, religieux encore plus. Le royaume de France, quand il annexait une province, il mettait 3 siècles. J'ai jamais trouvé un texte qui démontre que c'était une politique systématique, mais tout montre que c'était comme ça qu'on procédait. On mettait 3 siècles à faire de cette province qu'on venait d'annexer une vraie province française avec toutes les institutions. Et ce qui arrivait en dernier dans la province nouvellement acquise, vous n'allez pas être étonné, c'était le fisc. Quand le fisc arrivait, ça, on savait que l'affaire était jouée. Il fallait 3 siècles. Toujours comme ça. Encore en 1789, un tiers du territoire français est dit officiellement à l'instar de l'étranger effectif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de douane entre l'Alsace et le Saint-Empire romain germanique, mais il y en avait en revanche entre l'Alsace et la France à l'intérieur, en quelque sorte. Pourquoi 3 siècles ? Parce qu'on estimait qu'il fallait un certain nombre de générations pour que les gens s'habituent pleinement, adoptent pleinement les mœurs, les coutumes, les hiérarchies diverses, très complexes, y compris religieuses, civiles, du royaume de France. C'était pas rien quand même. Et même là, on est extrêmement prudent. C'est pour ça que l'historien, quand il pense par exemple à l'Ukraine, il doit remonter au Moyen-Âge. Il doit tenir compte de tous les problèmes religieux liés à Byzance et à l'Église d'Orient. C'est indispensable. Je ne dis pas que ça explique tout, mais il faut l'avoir en tête pour comprendre le tableau. Et dans le cas de l'Iran, pour prendre le cas de l'Iran, le temps long nous renvoie alors au passé perse. Mais je me contenterai du temps de l'historien contemporainiste, qui est plus court. Les Iraniens ne se sont pas amusés pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ils ont été occupés par les Soviétiques au nord et les Britanniques au sud. À peine dégagés de l'occupation de ces deux pays, ils ont subi en 1953 un coup d'État intérieur qui était en fait suscité par les Anglo-Saxons pour renverser le Premier ministre Mossadegh. Dans quelle mesure celui-ci avait ou n'avait pas le soutien du peuple, enfin en tout cas il était chef du gouvernement, il a été déposé par un coup d'État facilité par le Shah d'Iran, mais soutenu essentiellement par les Anglo-Saxons, pour des questions de pétrole essentiellement. Bon. Alors, si vous ajoutez à ça ensuite la guerre Irak-Iran, quand même pendant 10 ans, de 1980-1990 pratiquement, l'Irak a fait la guerre à l'Iran avec l'aide des pays arabes de la péninsule arabique, avec l'aide des Occidentaux, y compris de la France d'ailleurs. Il faut se remettre tout ça en mémoire pour mieux comprendre la réaction éventuellement des Iraniens aujourd'hui. Tout ça, ils ne peuvent pas l'oublier. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils soient forcément partisans du régime qui vacille en ce moment. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. J'en sais rien. Je ne connais pas la région. Je ne suis pas spécialiste de cette région. Simplement, j'en sais assez pour savoir que dans l'esprit des Iraniens, j'ai rencontré des Iraniens, j'en ai connu, j'en connais. Bon, il y a malgré tout un passé qu'il faut que nous ayons en tête pour mieux comprendre leur réaction complexe aujourd'hui. Et ce n'est pas une table rase. Voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est l'apport de l'historien. Voilà.
Ben justement, donc, prenons l'Iran. On nous montre un régime islamo-gauchiste mis en place en 79, d'ailleurs avec des gens intelligents comme Valéry Giscard d'Estaing, les États-Unis, qui à l'époque présentaient l'ayatollah Khomeini comme une espèce d'apôtre de la paix.
Monseigneur Khomeini, comme disait la presse à l'époque, les médias.
Voilà. Et bon, voilà, 40 ans plus tard, on a l'impression que les écailles sont tombées des yeux, 45 ans, et que tout le monde a compris qu'effectivement, cette république islamique iranienne était quand même, d'une part, un vrai facteur de déséquilibre mondial en soutenant des mouvements terroristes dans le monde entier, en commanditant des assassinats, des assassinats et des attentats. Et on se retrouve aujourd'hui avec cette puissance qui paraît chanceler, mais effectivement, un pouvoir qui est moins central qu'on ne le croyait. Khamenei est peut-être le guide suprême, mais c'est quelqu'un qui, à son âge et au poste qu'il occupait, en fait, n'est pas le tout du commandement iranien. Et défaire Khamenei, c'est pas comme assassiner le général de Gaulle, ce n'est pas comme assassiner Donald Trump. Voilà, c'est un pouvoir qui est malgré tout dispersé dans un pays qui est très grand, très nombreux, enfin plus nombreux que la France, plus grand que la France, avec des frontières communes à des pays extrêmement différents. Peut-on réellement penser que le régime iranien va basculer? Ça a l'air d'être l'un des objectifs de Donald Trump, qui se garde bien d'ailleurs de les préciser. Ça lui permettrait, en cas d'échec, d'éviter d'expliquer qu'il s'est planté.
Alors moi, écoutez, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas vous apporter une réponse fondée. Primo, c'est certainement moins simple qu'on l'a peut-être pensé à un moment donné à Washington, au début de l'opération, ou à Tel Aviv. Bon. D'autre part, les réactions des Iraniens eux-mêmes doivent être distinguées. Selon la région, ils doivent être distingués entre ville et campagne, c'est très différent. Ils doivent être également distingués selon la profession, selon le mode d'existence, le mode de vie, et également selon la diversité, disons, ethnique de l'Iran. Ils ne sont pas tous iraniens chiites, c'est plus compliqué que ça. Donc il faut éviter d'être trop affirmé. Je me permettrai de prendre un exemple, une affaire que je connais mieux. Ma mère était espagnole, famille républicaine, donc exilée après 1939. Je peux vous assurer que ma famille maternelle, exilée, bon, si dans les années 60, une frappe ciblé, avait liquidé Caudillo d'Espagne, ainsi que le chef de la garde civile, le président des conseils. Je vous rappelle que l'amiral Carrero Branco a été assassiné d'ailleurs par les Basques en 1970. Bon, si tout ça avait été liquidé par un coup venu du ciel en quelques minutes, je pense que le sentiment de joie chez les Espagnols républicains exilés aurait été considérable. Mais je suis également convaincu qu'en Espagne même, les réactions ont été extrêmement différentes. Donc, il faut être très attentif quand on a des diasporas. Je ne remets pas en cause le fait qu'elles sont parties parce qu'elles étaient ou forcées de partir ou parce qu'elles n'en pouvaient plus. C'est parfaitement honorable. Je ne remets pas ça en cause. Simplement, elles n'ont pas forcément le même point de vue que les gens restés sur place. Alors, il se peut que les gens restés sur place excellés, et on pourrait le comprendre, finissent par se rallier à l'opposition franche au régime en place. Mais on retombe sur ce que je dis. C'est complexe. Il y a des catégories qui ne réagissent pas de la même façon. Il y a d'autre part des gens, les gardiens de la Révolution, par exemple, on prend qu'ils sont 200 000, je crois. Ils ne peuvent pas partir. Eux, ils ne peuvent pas s'exiler. Ils n'ont plus rien, s'ils s'exilent. Donc, ils se battront jusqu'au bout. Ce qui introduit un facteur encore d'incertitude. En Union soviétique, les gens des services secrets, les gens de la nomenclatura, se sont recyclés dans le libéralisme sauvage mis en place après Yeltsin, avec Yeltsin. En Iran, c'est beaucoup plus difficile. J'essaie de faire comprendre la raison de la très grande précaution méthodologique que je conseille dans cette affaire. Et je trouve que les dirigeants occidentaux et Israël également prennent de bien lourdes responsabilités. Et j'espère que ça se passera le moins de mal possible. De bien lourdes responsabilités. D'ailleurs, l'opinion américaine me paraît divisée aux dernières nouvelles.
Il est certain que Donald Trump avait expliqué qu'il était temps de se replier sur l'hémisphère américain et on a l'impression que Téhéran est quand même très loin de Washington, de Dulles et de Baton Rouge.
J'avais expliqué d'ailleurs dans un des derniers articles que j'ai donné à Politique Magazine.
Excellente revue.
Oui, oui, bien entendu. Business of America is business. On peut pratiquement mettre cet article... comment dit-on les journalistes quand on décarte un article
On le met au marbre.
Ouais, voilà, on le met au marbre, oui, même plus qu'au marbre.
C'est les articles qu'on compte réutiliser plus tard.
Oui, d'accord, voilà, exactement. Ouais.
Mais dans ce pari que Trump et Tel Aviv font, on sent que Tel Aviv est en face d'un régime qui a inscrit la destruction de l'État d'Israël dans ses objectifs stratégiques, dans sa raison d'être. Donc que Tel Aviv ait la volonté de supprimer, sinon l'Iran, en tout cas le pouvoir en place en Iran, ça peut se comprendre. Et l'ambassadeur, il y a une réunion des ambassadeurs en Israël aujourd'hui où on leur disait qu'il fallait absolument que tous les pays cessent toute relation avec l'Iran actuel et donc faire en sorte que l'isolement soit complet. Ça, on peut comprendre que Israël ait décidé que dans l'analyse des bénéfices et des risques, plutôt que d'attendre que les Iraniens en poste actuellement deviennent fous et veuillent détruire Israël, il y avait quelque chose à faire. C'est moins compréhensible de la part de Donald Trump.
Alors là, bon, il y a deux thèses qui circulent en ce moment, sur ce point très précis. L'une, la plus répandue, c'est qu'Américains et Israéliens ont préparé ça ensemble, leurs services, leurs militaires, etc., depuis pratiquement l'été dernier, le mois de juin dernier, quand on a déjà attaqué les installations nucléaires iraniennes. C'est une thèse donc, de coopération étroite. Permettant à la CIA de donner aux Israéliens des indications très précises pour pouvoir décapiter entre nous. C'est assez intéressant, hein, techniquement, pas mal. Ils savent que telle heure, Khamenei et tous ses grands chefs seront réunis ensemble dans un endroit qui n'est pas un souterrain protégé, et clac, ça tombe dans les deux heures. C'est assez remarquable. Il y a une autre version que le ministre des Affaires étrangères Roumian annoncer à la télévision sans peut-être tout à fait se rendre compte que ça n'allait pas du tout avec la version antérieure. Alors vous comprenez, mais parce qu'il sent peut-être que l'opinion américaine ne suit qu'à moitié, vous comprenez, les Iraniens allaient de l'avant, ils ont voulu participer à l'opération pour reprendre le contrôle, sous-entendu pour les calmer, c'est ça qu'il sous-entend. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, vous avez deux pays qui ont tout monté systématiquement depuis le mois de juin, bon, pour des raisons qu'on peut comprendre, d'ailleurs, mais c'est ça. Dans un autre cas, vous avez Israël forçant le pas et les Américains trottant derrière pour essayer de contenir un peu leur enthousiasme. Ce n'est pas pareil du tout. Alors là, je ferai un jour voir si c'est passé, je ne peux pas vous le dire. Mais ces deux versions circulent. Ce n'est pas des versions inventées par le journaliste, ce sont les déclarations des hommes politiques américains que tout le monde peut voir sur YouTube. Ce n'est pas des imaginations. Hein.
Voilà. Et donc, le fait que les Américains aient envie de calmer les ardeurs de destruction des Israéliens...
Si c'est vrai.
Mais comment ne pas faire confiance à un politicien américain, c'est-à-dire, ce sont le plus grand degré de confiance qu'on peut accorder à quelqu'un sur Terre, comme chacun sait. Marco Rubio dit ça, et on a tendance, malgré tout, à se dire, c'est cohérent avec une partie de la manière dont Donald Trump agit avec Israël, c'est-à-dire à la fois en se montrant un allié, mais aussi en reprochant à Benjamin Netanyahou et à ses faucons leur appétit de sécurité expansionniste et leur volonté d'annihilation qui les conduit malgré tout, effectivement, de plus en plus, dans une certaine hubris, à des guerres menées avec une rigueur et une roideur un peu inédites. Et on aurait tendance, on espérerait en tout cas qu'effectivement les Américains veuillent tempérer les Israéliens, parce que la manière dont Benjamin Netanyahou conduit son pays en envahissant le Liban, en voulant gouverner la Syrie, en voulant supprimer l'Iran, ça nous emmène quand même extrêmement loin.
Nous emmène très loin. Il viendra un moment où aucun arabe, entre guillemets, de ces pays, quelles que soient ses orientations antérieures et même c'est sa religion. Je parle même des chrétiens du Liban, qui sont beaucoup plus réservés à l'égard d'Israël, et je suis très modéré dans le choix de mes termes, qu'ils ne l'étaient encore dans les années 70. Tout ça est tout à fait net. Si vous ajoutez à cela en plus une politique d'annexion territoriale de fait en Cisjordanie, il est évident qu'une fois de plus... Israël pourra toujours exposer des raisons, enfin bon, mais il est inconcevable que les populations arabes, musulmanes de la région, si vous voulez, ou autres, parce que je l'ai déjà dit, le tolèrent sans réagir. Ça me paraît invraisemblable. D'où, si la version d'une politique américaine prudente, essayant de contrôler les choses, à la fois l'Iran, mais en même temps les velléités israéliennes, est la bonne, j'en serais heureux. Ce serait une forme de raison, même si c'est très difficile, mais ça, c'est un fait. Bon.
Vous avez soulevé tout à l'heure un point extrêmement intéressant, qui est celui de l'assassinat de Khamenei, en se disant, après tout, on a une certaine nouvelle manière de faire la guerre. Le Venezuela m'ennuie, j'enlève son dirigeant. L'Iran m'ennuie, j'assassine son chef. Alors, auparavant, on avait bien des tentatives d'assassinat. Par exemple, ceux qui ont voulu tuer Hitler, qui étaient des Allemands, qui considéraient de l'intérieur qu'ils avaient un mauvais chef. Là, on se retrouve avec, il me semble, une donne politique nouvelle, ou peut-être extrêmement ancienne, où on décide qu'après tout, le plus simple est d'assassiner le chef, parce que, évidemment, un poulet sans tête court un peu au hasard.
Alors, dans le système de Westphalie, c'est, je pense, le tout à fait nouveau. Parce que on mène une guerre pour arriver à un moment donné à retrouver un état de paix, quel qu'il soit, même paix victorieuse. Mais enfin, le but de la guerre, même si la paix est une chose extrêmement difficile, c'est une construction, le but de la guerre, c'est quand même de revenir à un état de paix, même plus favorable que l'état antérieur pour le vainqueur. On est d'accord. La seule chose, c'est que si vous tuez les dirigeants adverses et leurs équipes, enfin tout le monde, alors avec qui allez-vous parler? Ce que vous risquez, alors, c'est l'anarchie, c'est l'explosion. Dans des pays, et ça s'applique aussi à la Russie, si on liquidait Poutine, on peut faire des parallèles, et toute son équipe, le risque serait de voir la Russie, qui comporte quand même la Fédération de Russie, 25% de non-russes, disposés en outre de façon géographique telle qu'ils peuvent faire éclater les moyens de communication et même toute la structure de l'État de la Fédération de Russie en tant qu'État. Et ça, si à un moment donné, vous n'avez même plus un partenaire avec qui conclure la paix, même si peu après la paix signée, l'autre qui a perdu la guerre sera éliminé. C'est autre chose. Il faut garder un partenaire. Et là, dans ce nouveau système de guerre, on élimine celui qui peut éventuellement vous aider à retrouver, enfin accepter de revenir à la paix. Moi, je trouve qu'on change là complètement de système. Et en même temps, bien entendu, c'est tentant, parce que les moyens techniques modernes d'information, d'écoute, toute nature, les armes de précision, tout ce que nous voyons maintenant, la guerre d'Ukraine nous en donne un exemple. Cette guerre-ci en Iran nous en donne encore un plus bel exemple, permet des frappes chirurgicales, mais multipliées, avec des effets extrêmement ciblés, etc. Ça n'a plus rien à voir avec la guerre telle que nous la connaissons. Je dirais même que les théories de la dissuasion nucléaire, tout à fait entre nous, elles en prennent un coup. Hein. Parce que, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas mettre la planète à feu et à sang parce que votre président a été liquidé par un missile ou un drone, hein. Qu'est-ce que vous faites?
C'est pas la même chose d'assassiner quelqu'un ou d'éradiquer une ville.
Bah, et, voilà. Bon, c'est voilà. Donc, on entre dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, directement lié aux nouveaux moyens techniques d'information. On peut développer. On n'est pas dans la science-fiction. Là, on constate que ça arrive beaucoup plus tôt que l'avaient prévu même les spécialistes. Quand vous parliez encore de ce genre d'hypothèses techniques aux militaires français ou autres, d'ailleurs, enfin, je prends les Français, je les connais moins mal, dans les années encore 2010 par là, pour eux, c'était la musique de l'avenir, comme disait Wagner, ce n'était pas du tout actuel. Mais là, nous sommes en pleine actualité. Y compris, d'ailleurs, un drone, les drones iraniens, ils ne sont pas mauvais, puis ils en vendent même aux Russes. Or, l'Iran n'est pas considéré comme une puissance technologique. C'est un drone, au départ, c'est un jouet qu'on développe. Hein. Enfin, c'est pas techniquement... Hein. Bon. Donc, tout ça pose d'énormes problèmes de conception même de la guerre. À la limite, on peut faire la guerre avec très peu de guerriers. Hein. C'est si on va par là. Hein. Bon, pas besoin de masse de gens. Hein. Il suffit de spécialistes, bien entraînés, motivés, bien outillés. Bon, voilà. Ça ouvre des horizons tout à fait nouveaux. Ça devrait faire réfléchir d'ailleurs les Européens sur leur effort actuel qui commence de réarmement. Est-il absolument utile de relancer la fabrication des chars d'assaut comme le fait l'Allemagne? Peut-être, enfin, ce n'est pas une évidence. Il faudra qu'on en discute, qu'on voit. La guerre change de nature avec d'énormes conséquences psychologiques d'ailleurs et politiques, nous avons déjà évoquées. Ça n'empêche pas en même temps les horreurs sur le terrain, l'arrivée des milices, diverses forces et autres qui occupent le terrain, massacrent les gens ou en tout cas les soumettent. L'un n'exclut pas forcément l'autre. Il ne faut pas non plus sauter complètement de l'un à l'autre. Mais enfin, vous avez une gamme d'actions militaires considérablement développées, je dirais, dans toutes les dimensions, au sens même spatial du terme, dans toutes les dimensions, qui donnent un coup de vieux aux vieux bouquins qu'on avait. Hein. Même Clausewitz, bah oui.
Clausewitz, effectivement, n'envisageait pas qu'on assassinât le chef des armées adverses.
Oui, moi je voulais savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore donner du crédit ou en tout cas encore avoir confiance dans des dirigeants politiques tels que Trump et Macron quand l'un a mené toute sa campagne électorale sur la paix, la fin de la guerre, la suppression des armes, et l'autre galvaude en permanence ce terme de guerre. Rappelons qu'Emmanuel Macron utilisait à outrance le champ lexical de la guerre au moment du Covid dans les années, enfin en 2020. Comment est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans ces dirigeants?
Moi, la confiance au sens psychologique du terme, chacun réagira comme il voudra, mais le problème plus profond, si vous voulez, c'est la vision politique. Qu'est-ce que c'est que la politique au sens fort, avec un grand P, et qui inclut évidemment la paix et la guerre, sont des éléments essentiels. À partir du moment où les Romains avaient un dieu de la guerre, qui était en même temps le dieu de la paix, c'était Janus Bifronce. Il avait un temple à Rome, quand on était en temps de guerre, on retournait la statue dans un sens, quand la paix revenait, on la retournait dans l'autre. Les choses étaient claires, au moins, c'était symbolique, c'était clair, comme toujours chez les Romains, c'était bon, bien juridique, bien, bien clair. Et malheureusement, nous sommes en train de nous éloigner de cela, c'est ni paix ni guerre. Charles Beaufre, j'en parle parce qu'on vient de publier une biographie intéressante à son sujet, avait formulé dès avant la Deuxième Guerre mondiale, en étudiant la politique d'Hitler, le concept de paix-guerre ou de guerre-paix, paix-guerre, guerre-paix, c'est-à-dire les deux en même temps. Bon, mais on accélère encore plus dans cette direction, en allant dans le sens que vous dites, l'abus de langage dans un cas, on fait pas la guerre à un virus, hein. Bon, c'est autre chose. Et alors dans le cas du président Trump, et je dirais les États-Unis en général, parce que ça va au-delà du président Trump, hein. ça remonte, on peut dire, les origines des think tanks et autres qui ont suscité le Trumpisme remontent au plus tard aux années 1980. C'était tout ça déjà présent dans certains cercles qui conseillaient Reagan. Bon, la seule chose, c'est que Reagan était un homme de bon sens, assez prudent, bon, et il ne se laissait pas emporter au-delà. Mais si vous lisiez certains de ses conseillers, ça allait plus loin, c'était plus dur. Et en même temps, les Américains commençaient à prendre conscience à ce moment-là que les armements classiques, y compris l'arme nucléaire, commençaient à être dévalorisés par les nouveaux armements, par ce que nous appelons maintenant l'intelligence artificielle, mais qui commençait déjà à fermenter, si vous voulez. Et ils imaginaient des processus de guerre plus sophistiqués. On le voyait déjà dans certains ouvrages, dans certains exercices militaires même du point de vue américain. On commençait à ouvrir des horizons nouveaux, simplement des horizons coûteux, nécessitant une remise en cause complète, y compris des personnels militaires traditionnels et des moyens techniques et industriels. Alors pour les moyens techniques et industriels, l'économie américaine est tellement souple et rapide que c'est pas un problème, c'est facile. Ça explique la carrière d'un Bezos. Ou d'un, bon, ça marche comme ça. Hein. C'est chez nous, c'est impensable. Comment Tesla, vous n'imaginez pas Tesla en France, enfin bon, c'est non. Totalement impossible, c'est inconcevable. D'abord, c'est contraire à tous les règlements de Bruxelles et ainsi de suite. Et bon, et puis en plus, un contrôle fiscal aurait réglé son cas tout de suite. Mais les Américains, si vous voulez, ils dans cette fermentation, dans tous les domaines, même sur le plan alors plus universitaire, sur le plus intellectuel, artistique, etc. J'ai une fermentation que personnellement je n'apprécie peut-être pas beaucoup, mais enfin je constate qu'elle existe. Elle est apparue très nettement en Californie dès les années 1960. Les universités californiennes ont lancé des initiatives. Les artistes californiens dans le domaine artistique, même pictural, ça, ont lancé dès les années 60. Après New York, c'est les années 50. Ça, les Californies, ils ont lancé des choses qui ensuite ont progressivement diffusé dans l'ensemble du monde occidental. Nous sommes, j'allais dire, conditionnés, formés, formatés, vous prendrez le mot que vous voudrez, peu importe, par tous ces courants, même si nous avons continué, en tout cas, j'ai fait du latin, j'ai fait du grec, etc. Ouais, bon, mais ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Enfin, si, c'est un sens pour moi, mais nos contemporains, nos jeunes gens, ils sont formés par tout un univers intellectuel, au sens profond même du terme intellectuel, apparu après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, avec bien entendu des réactions. C'est beaucoup plus compliqué que le système assez simple que je vous décris, mais enfin quand même, c'est toute une évolution dont le président Trump représente peut-être l'acmé, avec en plus peut-être des caractéristiques personnelles. C'est on réussit en politique aux États-Unis si on a de l'argent ou si on réussit à rassembler autour de soi des gens qui en ont. Essentiellement les banquiers de New York et ensuite de très très grandes catégories, et c'est utile pour comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient, Big Oil.
Le nerf de la guerre en fin de compte.
Big Oil, mais c'est plus que le nerf de la guerre, c'est un mode de vie, c'est un mode d'existence. Ça pose d'énormes problèmes économiques, enfin, parce que l'or noir, il se consomme, il ne se renouvelle pas. la production d'or noir, même si on va le chercher toujours plus loin, ça, tendanciellement, elle va diminuer. Donc ça pose des problèmes pour l'avenir, dont les Américains sont parfaitement conscients, qui contribuent à expliquer leur politique depuis les années 70, quand ils ont pris conscience du fait que s'ils ne faisaient pas de creuser un trou pour avoir du pétrole, la production du puits de pétrole allait passer par un pic, puis ensuite forcément redescendre au fur et à mesure de l'épuisement de la couche pétrolifère. Donc ils ont été amenés à comprendre assez vite, ce qui est au fond la thèse des écolos, si vous voulez, c'est que le pétrole n'aura qu'un temps. Bon. Enfin, je résume de façon brutale, mais ils en sont parfaitement conscients, les dirigeants américains, et ça explique beaucoup de choses.
Alors, dans ce nouveau paysage, il reste une certitude, c'est que Radio Courtoisie n'a pas de pétrole, et donc Radio Courtoisie n'a qu'une seule ressource, ce sont vous, chers auditeurs, et la manière dont vous pouvez, évidemment, soutenir Radio Courtoisie. Le plus simple, c'est de vous rendre sur soutenir.rc.fr pour déposer une obole numérique, et ou bien vous pouvez écrire au 61 boulevard Murat. Enfin bref, il y a mille manières de nous témoigner de votre gratitude. Je rappelle que vous êtes 2% à donner par rapport aux millions qui nous écoutent chaque semaine. Voilà, donc si jamais on passe de 2 à 3%, nous fera plaisir. Et si vous passez de 5 à 6 euros, ben là aussi, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez même donner un peu plus, comme le font certains. Monsieur le professeur, on va repartir évidemment sur une partie des choses que vous avez dites, et notamment cette dissuasion nucléaire dont vous vous demandez si elle est véritablement efficace. Là aussi, vous aviez écrit un article dans Politique Magazine en disant que la dissuasion nucléaire elle-même est remise en cause, puisque après tout, on sait qu'Israël est une puissance nucléaire, et Israël, lorsqu'elle a été attaquée par le Hamas, n'a pas utilisé cette puissance-là. Et en fait, on se retrouve, et vous avez cité d'autres exemples que vous pourrez développer, avec, au moment même où Emmanuel Macron nous explique qu'on va renforcer tout ça, en fait, une espèce, là aussi, de doute politique sur la pertinence de ce concept.
Et les exemples, dans la théorie, il y a eu des livres très savants sur la dissuasion nucléaire, hein, c'est l'essentiel de la stratégie, des penseurs de stratégie occidentaux depuis 45. Bon, je constate simplement que le 6 août 2024, l'Ukraine lance contre la mère patrie russe une attaque sur le territoire russe, incontestablement russe, à Rodinamat, n'est-ce pas, en direction de Koursk. Une attaque violente, enfin puissante, qui d'ailleurs a avancé, ils ont conquis du territoire. La Russie n'a pas utilisé l'arme nucléaire, alors que sa doctrine, qui est assez prudente et souple en fait, bon, permettait quand même de penser qu'elle n'aurait pas hésité. Mais là, elle a eu recours à quoi ? Ben, des frappes conventionnelles. Bon, entre guillemets, conventionnelles. Enfin, guillemets, je reviendrai. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, Israël, vous l'avez cité. Autre exemple, il y a beaucoup de cas où les États-Unis ont été victimes d'attaques diverses, de groupes divers. Ils ont été en guerre. La guerre du Vietnam est une affaire très sérieuse pour elles. Et là, on n'a pas utilisé l'arme nucléaire. Bon. Alors, il y a toujours d'excellentes raisons pour ne pas utiliser l'arme nucléaire. Mais je constate simplement que il y a des pays ou les groupes armés qui n'ont pas hésité à attaquer les États-Unis, superpuissance nucléaire, ou la Russie, également superpuissance nucléaire, et ainsi de suite. Je n'ai pas dit que la dissuasion nucléaire n'existe pas, et que l'arme nucléaire ne sert pas à dissuader, ce serait excessif. En même temps, ce n'est pas un absolu. Ça, je pense qu'il faut maintenant en prendre conscience. Deuxième point qui va un peu dans le même sens, et actuellement, qu'est-ce qu'on constate ? D'ailleurs, le président Macron l'a rappelé hier lundi à l'île Longue, il faut développer des armes à longue portée précises, mais non nucléaires, hein, avec des charges conventionnelles. Ça que ça veut dire. C'est ce que les Russes ont. Quand ils frappent à des centaines, voire à des milliers de kilomètres, une cible en Ukraine, c'est-à-dire une arme assez précise, sans charge nucléaire. Mais ça fait des dégâts considérables. Ça peut paralyser un circuit électrique, des usines, etc. C'est pas inefficace, loin de là. Et en même temps, ce n'est pas une arme nucléaire. Donc on passe en dessous du seuil d'une éventuelle riposte. Enfin, il me semble que les techniques de défense actuellement favorisent de plus en plus la précision on en a les moyens techniques, et plus vous êtes précis. Il y a une formule mathématique d'ailleurs qui le démontre, parce que la puissance d'une explosion varie selon le carré de la puissance intrinsèque de l'explosion, mais le cube de la distance, l'inverse du cube de la distance par rapport à l'objectif. Donc, il vaut mieux être plus près de l'objectif que plus puissant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous savez, avec 500 kilos, 2 tonnes, je sais pas, enfin, d'explosifs modernes puissants, vous avez des effets tout à fait dévastateurs si vous tombez au bon endroit. Et ça, c'est pas interdit par les lois internationales, il n'y a pas le même opprobre, même si c'est épouvantable. Il faudrait que les gens se mettent mieux en tête ce que subissent les Ukrainiens, nuit après nuit, ou jour après jour, dans leur ville. Pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'eau en hiver, parce que dans ces pays-là, il faut chauffer les canalisations pour avoir de l'eau. C'est inimaginable. Ce n'est pas nucléaire. Donc, on dit, bon, ça, ils souffrent, bien. Là aussi, on a un changement des catégories. Et je vous avais fait allusion au discours de l'île longue. Il faudra le relire calmement. Il y a des choses qui sont incontestables. Le président de la République très clairement dit qu'il gardait, le président de la République française garderait le contrôle de l'arme nucléaire, ce qui est constitutionnel et en même temps cohérent avec la doctrine de dissuasion nucléaire. Mais en même temps, si j'ai bien entendu, on va, en échange de notre dissuasion avancée, demander à nos partenaires européens de travailler, eux, sur la défense aérienne. On voit que c'est utile, hein, quand même. Les événements actuels montrent que c'est utile. Les armes à longue portée précise, à la limite, c'est un marché. Je ne sais pas s'il faut le comprendre comme un marché, un échange. On élargit notre dissuasion, mais en échange, vous nous donnerez des armes qui vous mettrait au point des armes, etc. Je me demande si c'est tout à fait judicieux, parce que je vois beaucoup plus l'importance de développer des armes à longue portée, très précises, à charge conventionnelle. Ça ne pose pas de problème international. Vous imaginez la France, une arme de ce genre tombe sur Marseille, par exemple, ou sur Lyon. Une seule. Vous voyez les réactions des gens. Vous pensez que la France continuerait à soutenir l'Ukraine contre la Russie dans ce genre de situation est à peine imaginable. Mais c'est ça le vrai problème. Et la défense antiaérienne, Iron Dome pour les Israéliens, Golden Dome pour les
Israéliens. Pour le
Golden? Golden Dome, parce qu'il faut toujours le Golden pour le président Trump. Et les Allemands, développent depuis le chancelier Scholz un système de ce genre pour l'Allemagne et les pays autour de l'Allemagne. Nous ne sommes pas inclus dans le programme, on ne nous a pas demandé d'en être. Mais tout ce qui est Pologne, etc., fait partie du programme allemand visant à établir une défense du même genre. Je ne peux pas vous en dire plus.
Donc c'est un bouclier antimissile.
Un bouclier anti-aérien, anti-missile, anti-tout. Parce qu'un avion qui vole à 2000 à l'heure et un missile qui arrive à 2500, vous savez, la différence elle est plus énorme. Ça aussi, ça fait partie des choses que... Il ne faudrait pas lâcher la proie pour l'ombre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je sais bien que la dissuasion nucléaire, l'arme nucléaire, elle vous pose dans une stature internationale, etc. En même temps, ce n'est pas un absolu. Les Anglais, par exemple, leur arme nucléaire, il est vrai que ils ont des sous-marins nucléaires qui ne fonctionnent qu'avec l'aide américaine. Donc, ce n'est pas pareil. Mais à quoi ça sert aux Britanniques en dehors de quelques gesticulations dont ils se gardent, d'ailleurs. Ils ne font pas du tout les mêmes démonstrations que nous. Alors, à quoi ça sert? Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas tout dans un système militaire. Donc, l'idée que l'on se concentrerait là-dessus, parce qu'on sait faire, c'est incontestablement, on sait faire, et qu'en échange, les autres feraient le reste... Ça me paraît pas la meilleure approche. Mais le discours de date d'hier. Il faut avoir le temps de l'étudier, de voir les répercussions, les arrière-plans, etc.
Oui, alors le chancelier Merz a déjà expliqué que ça tombe bien, qu'il y avait des groupes d'études qui étaient déjà, qui allaient être mis en place très rapidement s'ils ne sont déjà mis en place. Ce que Emmanuel Macron nous explique, c'est que malgré tout, il a prévu de faire en sorte qu'il y ait des avions français avec des charges nucléaires qui ne décolleraient pas du territoire français, mais qui seraient déjà positionnés dans les territoires alliés, comme la Pologne, par exemple. Donc, ce qui est quand même, là aussi, une évolution certaine de la doctrine nucléaire française. Parce que ce n'est pas les intérêts vitaux de la France ou comme il l'a rappelé, le fait de toucher à un seul point du territoire. Donc là, c'est... un avion nucléaire français qui est basé en Pologne, c'est sans doute pas pour revenir bombarder la France.
Alors, je vais faire là une série de remarques. Premier point, quand vous dites la cité chancelier Merz, il y a eu il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, un très intéressant et long article dans la Frankfurter Allgemeine. Ils ont interrogé des spécialistes français de ces questions, et qui ont déjà, en quelque sorte, dans leurs propos, laissé entrevoir le contenu du discours de l'île longue. C'est en train depuis un certain temps, je ne sais pas depuis combien de temps, mais déjà depuis un certain temps, appuyé sur des groupes d'études, des think tanks, etc. C'est sérieux. Et l'article de la FAZ, je l'ai compris, tenez, le rôle que joue ce journal en Allemagne, c'est un peu comme le Monde chez nous, si vous voulez, en haut, enfin très gros. Bon, c'est une façon de dire, attention, là, c'est du sérieux. Là, on commence à entrer dans les choses sérieuses. Premier point. Deuxième point, la légitimité même de l'arme nucléaire, elle est remise en cause depuis le traité d'interdiction des armes nucléaires de 2017, sous l'égide de l'ONU, qu'un certain nombre de pays ont déjà signé. Alors, la France n'a pas signé, ça ne la concerne pas. Bon, mais il y a une pression internationale. Nous avons d'autre part, et au niveau de l'Union européenne, et au niveau national français, des cours de justice. Ils sont parfaitement disposés dans d'autres domaines, on n'a pas encore évoqué celui-là, à s'appuyer sur des règles du droit international tel qu'il évolue, pour dire non, ça vous ne pouvez plus faire, ou il faut faire ça, etc. On le voit pour les questions de migration, par exemple, où les décisions au niveau de l'ONU peuvent parfois commander les réactions des différentes juridictions européennes et nationales en Europe. Donc il y a là un danger de délégitimation et des conséquences juridiques, il ne faut pas sous-estimer. Alors, on me dit, ah, il n'y a qu'à passer dessus. Oui, enfin, peut-être. Bon.
Non, bah, sauf que la France, justement, ne passe jamais dessus.
Non, mais voilà, vous avez. Bon, voilà, exactement. Bon, donc. Il faut être attentif. Alors, je signale que certains spécialistes français, et responsables français de ces questions, avaient déjà exprimé des inquiétudes fin 2019, début 2020. Dans la revue Commentaire, même. Donc, sérieux, des doutes, des inquiétudes à ce sujet. D'où la nécessité de se couvrir sur tous les plans davantage. Et incontestablement, de ce point de vue-là, mettre dans le coup, si vous me passez une expression vulgaire, nos partenaires européens, n'est pas forcément une mauvaise idée. Et, bon. En ce qui concerne le fait de baser un avion ici ou là, ce n'est pas en soi, si on garde à fond le contrôle de l'emploi de l'arme après, hein, ça c'est le point clé, ce n'est pas en soi contradictoire de l'idée de dissuasion, et en même temps, ça permet de revenir à ce qui a toujours été la thèse française, sauf à certains moments de durcissement doctrinal. Les intérêts vitaux de la France comprennent également ceux de nos alliés européens. Ça a été dit par des moyens divers, avec des nuances. Vous avez le livre blanc 72, qui est une première bible, si vous voulez, bon, qui retient cette idée. Vous avez en 78 un article de Raymond Barre, à l'époque Premier ministre, dans la revue Défense Nationale, me semble-t-il, où il reprend la même idée, la dissuasion, c'est les intérêts vitaux sur le territoire national, mais aussi nos voisins. Nos voisins, alors, une ambiguïté sur le mot voisin, surtout que l'Europe de l'époque, c'est plus celle d'aujourd'hui, c'est pas celle d'aujourd'hui. Mais enfin, ça n'a jamais été strictement réduit au territoire national, parce qu'on a toujours gardé l'idée primo qu'il n'était pas forcément utile de dire aux soviétiques, vous pouvez aller jusqu'au pont de Kiel, mais pas au-delà. Ça, c'est pas... D'autre part, je vous fais remarquer que les forces nucléaires françaises comportaient, jusqu'à la fin de la guerre froide, une composante de missiles à courte portée et d'avions porteurs de la bombe. Et le plan, c'était de détruire un pan entier, je cite les textes, hein, détruire un pan entier de la manœuvre soviétique, c'est le premier échelon, comme on disait, de la frontière du Rhin jusqu'aux arrières. Les avions français, avec une soixantaine de bombes, pouvaient atteindre des aérodromes, des ponts, des points de passage en Pologne et dans le nord de la Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est. Et ça, les Russes savaient très bien que s'ils recevaient au total 120 engins nucléaires français, c'est le compte à peu près de la force tactique française, bon, ça aurait considérablement gêné leur mouvement. C'était concret, hein. C'était pas uniquement théorique, c'était aussi concret. Donc, il y a aussi des aspects, disons, très, très concrets. Je suis sûr que, du point de vue russe, la présence d'avions français nucléaires en Pologne, par exemple, introduirait une inconnue supplémentaire dans leur équation. Ça ne veut pas dire qu'ils renonceraient pour autant à leur projet, mais ce serait certainement pour eux une variable de plus dont il faudrait tenir compte. Pas là pour exposer la stratégie russe, hein, mais ça introduirait, ça c'est incontestable, un facteur supplémentaire d'incertitude pour eux, et donc de prudence éventuellement. La dissuasion, c'est ça, c'est rappeler l'autre à la prudence nécessaire. C'est, je pense, la version la plus raisonnable de la dissuasion nucléaire. Voilà. Alors, donc, il y a à boire et à manger, si vous voulez, dans le discours de l'île longue. Moi, ce qui ne me plaît pas, mais ça ne m'a jamais plu dans les discours officiels nucléaires français, c'est le côté coq gaulois dressé sur ses ergots nucléaires. Mais ça, c'est très personnel. C'est, je ne demande pas aux gens de réagir comme moi. Moi, c'est très personnel. J'aime pas ce genre de discours. Parce que, bon, j'ai tendance à penser que l'arme nucléaire, moins on en parle, mieux ça vaut. Il suffit de faire une bonne manœuvre de mise en alerte, qui est immédiatement comprise par toutes les puissances voisines, y compris les nucléaires, y compris les Russes. Bon, écoutez, voilà, on existe, voilà ce qu'on peut faire. Hein. Le silence seul... Seul le silence est grand, dans certains cas. Mais c'est, une fois de plus, c'est mon style personnel, mais je ne suis pas président de la République.
Mais est-ce que justement, ce n'est pas une manière pour Emmanuel Macron d'exister, ce discours, plus que pour la France, en tant que puissance?
Bon, alors, écoutez, il n'est pas le premier, hein, il n'est pas le seul à avoir
oui,
fait ça.
Oui, là,
bon,
je parle d'Emmanuel Macron, parce
mais,
que aujourd'hui,
vous... Voilà, mais il est évident que c'est pour le président de la République française, 5e République, attention, 5e République, j'insiste, c'est 5e République, et depuis que les évidences sur lesquelles reposait cette 5e République, donc depuis, après le président Pompidou, les choses déjà devenaient plus difficiles avec son successeur Valéry Giscard d'Estaing, sur tous les plans, y compris économique, y compris sécurité intérieure, y compris problèmes liés au mouvement de population, au mouvement culturel divers, etc. C'est une réaffirmation du pouvoir régalien qui est la plus commode. C'est quand même 30% du budget militaire à peu près, donc ça vaut la peine qu'on l'utilise un peu. Donc ça joue incontestablement. Ça va au-delà de la personnalité du président de la République. Et c'est un travers national, si vous me permettez de vous donner mon point de vue. C'est
mais tout à fait.
Excessif, voilà. Qui détourne des vrais problèmes, y compris des vrais problèmes militaires que nous avons évoqués tout à l'heure, n'est-ce pas, voilà. Est-ce que ça répond à peu près, madame, à votre,
absolument,
à votre remarque?
Oui. Bonsoir. Vous avez des lecteurs, notamment la guerre de 50 ans, notamment donc, les ouvrages sur la diplomatie française pendant l'après-guerre ou la guerre froide, desquels vous êtes un spécialiste effectivement reconnu. Vous rappeliez avec fort à propos le caractère européen de la dissuasion nucléaire française. Ce projet, qui devait s'inscrire dans une politique de puissance, continentale. Le général de Gaulle, comme Georges Pompidou, avait effectivement manié cette ambiguïté en disant que la décision nucléaire française avait vocation à emmener l'Europe vers une politique d'indépendance ou d'autonomie stratégique, autrement dit, dispenser nos partenaires européens du parapluie militaire américain et nucléaire auquel ils étaient attachés. Est-ce que plusieurs fois la France n'a pas manqué certaines occasions, notamment envers l'Allemagne, en refusant par exemple de mettre des missiles nucléaires ou des lanceurs nucléaires en Allemagne, en refusant de couvrir assez nettement certains alliés proches? Après tout, le général de Gaulle aurait confié à Alain Perfitte qu'il était dans les intérêts vitaux de la France que de protéger ses voisins avec son parapluie nucléaire, puisque l'Allemagne n'était pas non plus un pays très lointain, et que si l'Allemagne était envahie, ça aurait des conséquences directes sur la France. Est-ce que toujours la France a été assez engagée pour mettre en confiance nos partenaires européens et les amener vers la politique de puissance à laquelle avait songé le général de Gaulle dans le cadre du plan Fouché, dans le cadre du couple franco-allemand, dans le cadre du traité de l'Élysée? Est-ce que la France n'a pas joué un double jeu qui lui a été...
Alors, c'est une importante question qui va très très loin et je ne pourrais pas apporter une réponse définitive. Simplement, il y a eu un moment, au début, c'est le plan Fouché, d'union politique, comme on disait, qui avait un arrière-plan stratégique. Il suffit de relire son préambule, qui est peut-être le plus important du fameux traité d'union politique. Bon. Et ça, ça a failli passer. Le texte avait été durement négocié, mais début 62, c'était prêt. Simplement, au dernier moment, on le sait maintenant, sur une instante remarque de Michel Lemoyer, le général a fait durcir le texte qui avait été convenu péniblement à 6, de façon à réinsérer le refus, enfin l'éloignement par rapport à l'Alliance Atlantique. Parce que nos partenaires pouvaient accepter une certaine ambiguïté, l'un comme l'autre à la fois, bon, mais on leur demandait en fait de choisir, pour dire les choses très simplement, parce qu'on ne peut pas entrer dans les détails juridiques du texte. Et ce jour-là, le général de Gaulle a fait capoter un projet auquel il tenait lui-même, hein, pour les raisons que vous avez dites, bon, et ça a été une occasion perdue. Alors, il y a eu d'autres occasions, en particulier entre Cole et Mitterrand. On a raté l'occasion avant la réunification. On a raté l'occasion d'aller jusqu'au bout des conversations quand les Allemands ont dit: écoutez, vous avez des Plutons, en cas de guerre, ils vont tomber sur le sol allemand. Il faudrait qu'on puisse dire un mot dans leur utilisation éventuelle. Et Mitterrand a refusé de changer, mais en même temps, il a tenu compte quand même, parce qu'il a commencé à entamer toute une série de nouveaux programmes qui en fait écartaient progressivement, préparaient la mise à l'écart du Pluton, qui avec 120 km de portée, tombait en fait en Rhénanie pratiquement, hein, pas beaucoup plus loin, qui posait aux Allemands des problèmes évidents, enfin, c'est tout à fait clair. Donc, là on a raté peut-être une occasion parce qu'on n'est pas allé assez vite et on n'a pas discuté assez à fond avec les Allemands. C'est une deuxième remarque. Une autre remarque aussi, c'est que les Français ont tendance à réduire l'Europe au couple franco-allemand. Alors, primo, couple franco-allemand, c'est l'expression française. Hein. La seule fois où j'ai entendu un responsable allemand au rang élevé au cours d'un colloque des années 90, tout au plus une passade, votre couple franco-allemand. Il a dit ça en allemand, ce qui fait que les participants n'ont pas compris. Bien compris. Donc, ça c'est méprisant. L'Europe, c'est pas seulement la France-Allemagne. L'Allemagne évite très soigneusement de donner cette impression. Vous avez vu que récemment, pour revenir à l'actualité, chancelier Merz et Mme Meloni se sont rencontrés. Alors, qu'est-ce qu'il faudra en conclure à l'avenir? On verra. Mais il est évident que le signal envoyé par ces deux jeunes gens était très clair. Il n'y a pas que la France et l'Allemagne. Bon, j'ajouterais d'ailleurs que je ne comprends pas. Alors ça, c'est peut-être le principal reproche que je fais au discours de l'île longue, pour y revenir, madame. C'est que dans les pays mentionnés avec lesquels nous avons des contacts, etc., ne figurent ni l'Espagne ni l'Italie. Alors, je laisse de côté mon itinéraire personnel qui fait que je comprends, je ne peux pas concevoir ça, mais même du point de vue politique, si on pense à la Méditerranée, à l'Afrique du Nord, à l'Afrique, avoir une vision stratégique sans essayer, en tout cas, tout faire pour englober l'Espagne et l'Italie, deux pays pas commodes, ça je sais très bien, mais au moins lancer une phrase, là, et j'attends que l'Espagne, l'Italie nous rejoignent, on prévoit ça. Bon, je comprends pas, je comprends tout simplement pas quel est le sens, même purement stratégique, même pas dans la politique, purement stratégique, cela peut avoir. Voilà. On je pense souvent... avoir répondu à peu près à votre question, monsieur.
On dit souvent que l'usage de la force nucléaire étant finalement une force, une arme posthume, que l'on peut prendre la décision d'utiliser qu'après 10 minutes ou 5 minutes que l'alerte nucléaire a été déclenchée, ne peut être du ressort que d'une seule personne. Quelle forme pourrait prendre un usage collectif, continental, multilatéral de l'arme nucléaire ?
Alors, le président Macron a dit très clairement que ce serait le président de la République française qui contrôlerait le feu nucléaire. Donc, la dissuasion avancée telle qu'on l'a évoquée hier, ce sont des exercices en commun, qui sont déjà pratiqués, ça existe déjà. Ce sont des dispositions sur des bases en dehors du territoire national, mais ça ne touche pas la chaîne de commandement. C'est-à-dire que les pilotes ou les responsables seraient toujours liés au chef, au président de la République française. Voilà. Actuellement, personne ne conçoit qu'on aille au-delà. Et pour ce faire, d'ailleurs, juridiquement, il faudrait, à cause de tous les traités nucléaires, etc., il faudrait au minimum une fédération européenne. On n'en est pas là. L'Union européenne n'est pas une fédération. Elle a décidé d'avoir un commissaire pour les questions de défense, mais elle n'en a pas le droit. Ce n'est pas prévu dans son dicastère, si vous voulez. Et voilà, on en est. Donc, on n'en est pas là. Je ne dis pas qu'un jour on n'y arrivera pas, mais pour le moment, on n'y est pas. On ne peut pas y être.
Alors, on a une réaction d'un auditeur. Et qui nous dit, si j'ose dire, à peu près ce que vous nous avez déjà raconté. Rappelons que le nucléaire tactique, les missiles Pluton et Hades ont été abandonnés, d'une part car la RFA a refusé de servir de terrain de jeu, c'est ce que vous venez de dire, d'autre part parce que son efficacité serait douteuse sur les blindés actuels et que le tactique est maintenant complètement obsolète avec la disparition des offensives de groupes blindés compacts condamnés par les missiles anti-char et les drones. C'est ce que vous disiez tout au début de cet entretien la pertinence du programme de char allemand.
Il faut tout à fait.
Quand le président dit qu'il faut être fort pour être craint et faire peur pour être respecté, n'a-t-on pas l'impression d'entendre des propos de cours de récréation? Vous parliez tout à l'heure de coq gaulois dressé sur ses ergots nucléaires. Donc voilà, il y a au moins un auditeur qui vous a bien suivi ou qui a pensé en parallèle de vous. Il nous reste juste 4 minutes. Et si vous aviez une leçon à tirer, pas de cette guerre irano-palestinienne, israélienne, irano-américano-israélienne qui vient de se déclencher, mais de la dernière année, ou au contraire du premier mandat Trump, ou plutôt même de cette décennie, enfin, quel serait ce qui vous étonne et ce qui vous paraît se dessiner lueur des derniers conflits?
Très rapidement, ça me rappelle malheureusement beaucoup les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, où les crises succédaient aux crises, elles finissaient par réagir les unes sur les autres. Il y a eu beaucoup de crises avant 14, hein, à part les affaires marocaines, je peux faire le récit maintenant, mais depuis, disons, 1907, on est 1909, on est en crise constante, au moins une par an grave, avec des guerres, enfin des gens qui meurent, jusqu'en 14. Et un de mes professeurs de lycée, un excellent professeur, nous disait, c'est comme l'éléphant sur la balançoire. Alors d'abord, il y a un éléphant qui se balance, la première crise, puis un deuxième éléphant qui arrive, puis ensuite trois éléphants, puis au quatrième, la balançoire casse. Et c'est la guerre de 14. Et ça commence à rappeler à l'historien obsédé que je suis par l'histoire, ce genre de phénomène. Il n'y a plus de gestion, où que ce soit, de la contemporanéité de ces crises. Hein. Ce n'est pas un plan, master plan américain ou autre, ou israélien, ce que vous voulez, ou poutinien d'ailleurs. Ça s'enchaîne comme ça, avec des interactions que vous allez voir d'ailleurs au prix à la pompe hein, très vite, et avec des conséquences de tout ordre, y compris de politique intérieure, très difficiles à prévoir, mais qui ne me rendent pas optimiste.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le professeur. Voilà, et en espérant que pour le prix à la pompe, ça ne durera pas trop longtemps. Les dernières analyses de la BNP expliquaient que dans un an, tout serait revenu à la normale. Donc voilà, donc, les marchés financiers n'ont pas l'air d'y croire.
Vous écoutez, marchés financiers se trompent toujours. Une règle que je livre à Politique Magazine.
Parfait. Merci beaucoup.